Vous êtes sur RTL.
Journée étoilée.
Et à 18h49, rendez-vous avec notre kiosque RTL.
Et nos trois kiosquiers, Christian Ménanteau, Julia Molcou et Catherine Boulet. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir Thomas.
Catherine, un petit coup d'œil pour commencer sur la presse japonaise. C'est plus Carlos Ghosn qui fait la une là-bas, c'est le congé paternité. Pourquoi donc ?
Eh bien d'abord parce que c'est le congé paternité de l'homme politique le plus populaire du Japon, oui. Shinjiro Koizumi, 38 ans. Il est plutôt beau gosse en plus.
Très beau gosse.
C'est le plus jeune ministre du gouvernement japonais. Il attend la naissance de son fils qu'il a eu avec une présentatrice connue de la télévision pour la fin du mois de janvier. Et il a donc annoncé dans une conférence de presse cette grande première qu'il prendrait 2 semaines de congé paternité pour alléger la mère, tout en rassurant ses collègues.
La priorité sera donnée aux affaires du gouvernement et à la gestion des crises. J'assisterai à toutes les réunions de cabinet. Ce congé paternité n'affectera en rien mon travail.
Ouais, c'est un congé paternité à minima quand même.
C'est léger. Vous avez tout à fait raison. Surtout qu'il ne va pas prendre 2 semaines d'un coup. Il va le distiller au compte-gouttes, ce congé paternité, un jour par-ci, un jour par-là. Mais même avec ça, il brise un énorme tabou au Japon, société extrêmement patriarcale, où la loyauté envers son patron passe par de grandes heures, de longues heures passées au bureau. Et c'est paradoxal parce qu'au Japon, la législation en matière de congé parental est même plus favorable que dans les pays scandinaves. Ouais. Sauf que très peu en profitent. 6% des pères l'année dernière ont pris le congé paternité. Et pour cause, l'année dernière, vous avez 2 hommes qui l'ont pris, ce congé paternité. Et au retour, bam, licenciement après une rétrogradation. Donc ça calme.
Le congé paternité qui progresse tout doucement, donc au Japon. En revanche, Christian Ménanteau, il est très ouvert. Il fait la cuisine lui-même. Il veut même cuisiner les écoles de gestion et la cuisine dans la même marmite ce soir. Quel est ce mariage
insolite ? Touiller tout ça, vous allez voir, parce que les plus pointus de nos écoles de commerce, ils ont décidé de se tirer la bourre pour être présentes sur ce marché qui est en plein boom de l'hôtellerie-restauration. Alors on pourrait appeler ça les hautes études de cuisine, c'est HEC. Alors c'est pas une école éponyme comme pourrait le penser Julia.
Très joli vocabulaire.
Voilà. Mais on va aussi à HEC décerner un double diplôme cette année. Il y aura le prestigieux master de gestion et avec l'école des chefs, un CAP de cuisine. Et du coup, l'EM Lyon, très belle école aussi, suit cette piste avec l'Institut Paul Bocuse et Knetsch Business School avec l'école hôtelière de Lausanne. Bref, tout le monde s'y met. C'est un mouvement entre les grandes écoles et les fourneaux qui rappelle, mais en beaucoup plus sympathique, celui qui avait été organisé dans les années 2000 autour des expertises financières.
Bon, mais qu'est-ce qui explique, Christian, cet engouement des jeunes diplômés ?
Je crois qu'il y a 3 grands facteurs. D'abord parce que le marché est extrêmement porteur. La Banque publique d'investissement elle-même vient de sélectionner 33 jeunes entreprises de ce secteur dont la croissance dépasse 20% par an. Plus significatif encore, les grands fonds d'investissement, c'est-à-dire c'est là qu'il y a l'argent, sont sur le coup. Le fonds français Euraseo vient ainsi de prendre la majorité des écoles de cuisine de Ducasse.
C'est un signe.
Oui, c'est un signe.
Deuxième point.
Les chefs sont starifiés aujourd'hui, mais d'abord comme des chefs d'entreprise à succès, plus que comme des cuisinier, et avec la réussite bien sûr qui va avec. Si vous prenez le pâtissier Pierre Hermé, il disposerait selon Challenge d'un patrimoine professionnel de 150 millions d'euros. Ducasse, c'est 82 millions, etc., etc. Puis le troisième point, c'est le succès de leurs copains de promo. Litchi, la livraison des repas tout près, c'est HEC plus Dauphine. Big Mama, dont vous êtes un client fidèle, sais, restaurant italien, c'est du HEC. Canard Street, c'est du EDEC. Bref, chocolat français, c'est HEC. Vous voyez, les promos se mettent sur ce secteur.
À part les fake news que vous racontez, c'est intéressant votre truc. Les émissions de TV jouent un rôle ou pas, les émissions de télévision ?
Oui, ça joue un rôle, évidemment que ça joue un rôle, d'autant qu'il y a des opportunités à la clé formidables. 5% aujourd'hui des campagnes de pub qui sont adossées à des personnalités, que ce soit pour l'énergie, les voitures ou les montres, par exemple, comptent un chef de cuisine à l'image. Et pour une conférence en entreprise, un Guy Savoie, un Guy Martin sont plus cotés qu'un Bernard Tapie, un Lucchini ou un Soto. Vous imaginez les perspectives.
Alors surtout, il va vous dire un truc, il n'a jamais animé ce genre de truc et c'est pas sa cam. On va passer à la lecture avec vous, Julia. Ce soir, vous avez choisi de nous parler d'un livre.
Le service des manuscrits, c'est le titre de ce roman presque policier d'Antoine Laurin, édité chez Flammarion, qui nous entraîne dans différents univers. Je vous raconte. D'abord, le livre nous raconte ce que c'est que le service des manuscrits, ce lieu propre à chaque maison d'édition, où viennent s'entasser et même s'échouer les textes d'hommes et de femmes persuadés, parfois à juste titre, souvent à tort, d'avoir écrit le roman que la littérature contemporaine attendait. On apprend donc comment travaillent ceux qui, toute la journée, lisent ces futurs Nobel, comment ils les répertorient, et on découvre même, par cette occasion, que plus de 500 000 manuscrits sont renvoyés chaque année à leurs auteurs, toutes maisons d'édition confondues en France. Mais la grâce de ce métier, c'est évidemment de tomber sur la perle rare, et c'est le cas avec le roman « Les fleurs de sucre », reçu un matin dans les bureaux de la maison d'édition que dirige avec poigne Violaine Lepage. Et voici donc qu'on entre dans le deuxième aspect du livre. Qui est donc l'auteur de ce roman? Qui est donc cet homme ou cette femme qui va signer son contrat à distance, qui ne va accepter aucune interview alors même que son livre connaît un immense succès et surtout qu'il se retrouve en sélection finale du Goncourt? Le suspense ne s'arrête pas là, puisque, tenez-vous bien, les meurtres décrits minutieusement dans ce livre se produisent dans la réalité. Bravo Christian. Bon, alors voilà pour le résumé du livre, et évidemment je ne peux pas en dire plus. Ce que je peux ajouter, c'est que ce roman d'Antoine Laurin est très bien ficelé, qu'on a envie de connaître la fin, on veut savoir qui se cache derrière ce titre énigmatique, Les fleurs de sucre, et surtout on veut savoir pourquoi son éditrice Violaine Lepage semble avoir un passé étroitement lié à tous ces meurtres. Mais pour le découvrir, à votre tour de tomber dans le service des manuscrits, édite chez Flammarion et qui se lit très facilement pour le week-end.
Je vais vous appeler Bernard Pivot, parce que vous me donnez envie de lire. Vous. Non, mais c'est vrai, elle est forte. Je crois que vous avez dit Litchi, c'est Frischti. Hein.
J'ai Frischti ou Litchi.
Non, c'est Frischti.
Je devais rêver.
Vous étiez déjà en train de. Voilà,
c'est bien
côté exotique.
Vous avez raison.
Allez, merci à tous les trois.